Bonjour, eh bien, Raymond Richard au micro avec Michel Bourgès-Monory pour reparler de l'Europe dans l'émission Bienvenue en Europe que vous connaissez bien, chers auditeurs. Et puis, eh bien, à cette occasion, parlons un peu des nouvelles de l'Europe en Eure-et-Loire, parce qu'il y a une rencontre avec le mouvement européen qui s'est tenue la semaine dernière, si je ne m'abuse, au moment où nous enregistrons, donc disons, tout à fait récente.
Oui, il y avait cette réunion qui était organisée conjointement par le mouvement européen, la section d'Eure-et-Loire du mouvement européen, et l'association des jumelages de la ville de Voves, et qui avait invité à cette occasion toutes les associations de jumelage du département à se réunir pour essayer de confronter leurs pratiques en matière de jumelage, qu'est-ce qu'ils font dans les échanges avec les pays européens, etc. Donc c'était pour essayer de trouver un ressourcement à cette ambition des jumelages qui, rappelons-le, est quand même à l'origine, pas à l'origine de l'Europe en tant que telle, en tout cas au niveau politique, mais qui indique symboliquement les liens qui nous unissent tous sur notre continent européen.
C'est plus que symbolique, parce qu'en fait, quand on reçoit des Européens, d'autres d'ailleurs, on voit bien que finalement, on a beaucoup plus de choses qui nous réunissent que de choses qui nous séparent.
Tout à fait.
Et à cet égard, mais ça, peut-être j'en parlerai, si je le dis, parce que j'ai la parole, eh bien, par exemple, à Dreux, le jumelage inter-européen s'est accru et maintenant il y a non seulement l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, l'ancienne Allemagne de l'Est, donc deux jumelages avec l'Allemagne, mais aussi avec le Portugal. Donc je trouve que c'est... on sent. Et d'autre part, les gens du jumelage envisagent, enfin, il se trouve que c'est dans leur projet, d'aller au Luxembourg. Donc ils se sentent vraiment européens et ça me paraît important. Il y a Erasmus pour les jeunes, mais il y a des gens, et dans les jumelages, ce sont souvent des personnes âgées, ou qui peuvent recevoir, ou qui ont le temps. Eh bien, finalement, on s'aperçoit que les jeunes veulent aller en Europe, mais les anciens aussi. Et tout le monde, finalement.
Et tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer d'élargir au maximum les participations. Et lors de cette réunion, justement, des échanges en matière de jumelage, eh bien, c'était pour redonner vie à des jumelages qui, parfois, après 20, 30, 40 ans,
s'essoufflent
un peu, et particulièrement d'essayer de renouer avec la participation des jeunes et de dépasser les simples échanges classiques, dirons-nous, de style de une fois par an d'aller faire une visite dans la ville jumelle à titre touristique. Au niveau des jumelages, on peut parler de tout et comparer justement nos manières de vivre, nos manières d'être, de fonctionner, d'être les impôts que l'on paie, etc. Tout cela, on peut faire des comparaisons, essayer d'en tirer le meilleur. Et également, une pratique qui est intéressante à voir, c'est qu'au niveau d'un département comme l'Eure-et-Loire, eh bien, si on essaie de réunir l'ensemble des villes jumelées, eh bien, il n'est pas exclu d'essayer dans l'avenir de même organiser pour renouveler justement ces pratiques, ces échanges, de combiner des visites avec plusieurs villes et pas uniquement la ville jumelle de la ville indiquée, mais d'essayer de faire des partenariats à 2, 3, 4, etc. Donc c'est un renouvellement, on verra qu'est-ce que ça donnera dans la suite. Donc maintenant la balle est dans le camp des associations de jumelage. Alors un autre mot à dire, c'est que cette réunion à Voves, qui était évidemment tournée vers l'Europe, au-delà des jumelages,
quelle nouvelle de l'Europe
vue
par son président.
Dans les conclusions de cette réunion, M. Cavada, qui est député européen, qui est un ancien journaliste, comme chacun sait, est venu faire un discours avec questions-réponses avec la salle, et ça a été vraiment très intéressant. Parce qu'il a pu parler de sa vision vue du Parlement européen, puisqu'il est très actif à ce niveau-là. Et il faut aussi rappeler qu'il est l'ancien président du mouvement européen français. Donc c'est un Européen convaincu qui connaît tout à fait la manière dont fonctionne l'Europe. Donc lui était très réaliste dans sa présentation et en disant que effectivement il y a beaucoup à améliorer. Et lui, il voyait, pour être tout à fait concret, une Europe à plusieurs cercles, avec un cercle resserré autour de la France et de l'Allemagne, et que l'on en revienne à certains sujets de fond régaliens, disons. Avec le politique, un vrai gouvernement politique au niveau de cette petite communauté qui relancerait l'Europe, notamment autour du noyau franco-allemand, et puis également au niveau de la défense, de la sécurité. Donc tous ces sujets qu'il a nommés comme régaliens, qui devaient redonner sens à l'Europe et de la relancer. Donc tout ceci mérite des réformes, mais la balle est dans le camp maintenant des citoyens, et comme cela a été bien indiqué lors de cette réunion et à travers les questions-réponses, eh bien les citoyens ont leur mot à dire, et notamment actuellement à travers ce que l'on appelle les rencontres citoyennes, qui permettent à tout citoyen de dire ce qu'il pense de l'Europe, puisque à la fin de l'année, il y aura un rapport qui sera transmis au niveau européen et avec des conclusions en prévision précisément des futures élections européennes.
Est-ce qu'on peut parler du mode d'emploi ? Parce que là, effectivement, les jumelages à Vov ont invité M. Cavada, donc une rencontre citoyenne. Comment ça se présente ? Comment ça se pratique ? Parce que finalement, il y a peut-être des gens qui se disent « Ah, mais moi, j'organiserais bien dans mon village une rencontre
citoyenne. » Tout le monde peut faire une rencontre citoyenne et l'organiser. Ceux qui veulent le faire peuvent consulter le site toute-l'europe.com et là, ils ont toutes les informations voulues. C'est tout à fait
ouvert,
aidés, accompagnés, mais la liberté revient à chacun. Donc il n'y a aucun problème. Simplement, s'il y a une sorte de formalisme, entre guillemets, mais qu'il l'est très peu, c'est simplement pour permettre précisément de recueillir les avis des citoyens pour qu'ils puissent être transmis ensuite. Parce que organiser une réunion dans son village, dans son quartier, c'est tout à fait possible entre citoyens, mais si on ne peut pas en connaître le résultat, ça n'a aucun intérêt. Enfin, ça a un intérêt local, mais c'est dommage de
perdre. Oui, ça mobilise les gens, parfois, mais c'est vrai qu'on mobilise l'information.
Tout à fait. Et donc, à travers... C'est simplement des formalités de déclaration et de s'engager à transmettre les idées que les citoyens ont voulu bien fournir.
Oui, donc, eh bien...
Mais là, on fait peut-être un rapprochement avec aussi l'élection du Parlement européen. Donc, en mai 2019, donc l'année prochaine, c'est une élection qui, là, va être tout à fait importante au niveau... De l'histoire de l'Europe récente, et donc on pourra peut-être y revenir dans un instant, mais il y a un lien entre tout ceci, entre les consultations citoyennes, où il faut redonner la parole à la base, et non plus s'en remettre à une centralisation, entre guillemets, d'une Europe qui resterait à Bruxelles, confite à Bruxelles. Il y a toutes ces réunions organisé en France, mais dans les autres pays également, à ce sujet. Donc c'est extrêmement important, d'autant plus qu'on a pu aborder ce sujet dans des réunions antérieures, mais avec la montée que l'on appelle des populismes en Europe, on le voit tous les jours à travers les informations dans les médias, il y a une montée, une certaine montée, il ne faut pas non plus exagérer de ce côté-là, mais une certaine montée d'un repliement sur soi, par crainte souvent fausse, mais qui existe, c'est un ressenti des citoyens, et donc un repli sur le nationalisme, un retour sur soi, et qui est préoccupant parce qu'au niveau de ce que doit être l'avenir de notre continent, on ne le dit pas assez, mais si c'est pour en revenir... 70 ans, 80 ans en arrière avec l'Europe d'avant-guerre, eh bien, on a vu où cela menait. Donc, il faut absolument que l'on puisse s'entendre, mais tenir compte, évidemment, de toutes les opinions. Et dernièrement, on a pu voir avec le cas italien que même un pays d'origine du début de la communauté européenne, eh bien, a désormais un gouvernement qui, sans rejeter complètement l'Europe, en tout cas, fait part d'un certain point de vue très nationaliste, et on pourra y revenir en ce qui concerne les dernières actualités concernant ce pays et ses relations avec l'Europe, notamment à l'occasion du dernier sommet européen.
Alors, j'entends, c'est un peu... on ne veut pas agiter le chiffon rouge en disant « nous nous retrouvons en 1930 », mais regardons l'avenir. L'avenir, c'est quand même en avant l'Europe, en avant les jeunes, et on voit les échanges, vous en avez parlé, au travers des jumelages. Je prends l'exemple de Dreux, puisque je suis drouaise. Il y a non seulement le jumelage entre les villes, mais les villes entre elles sont jumelées, c'est-à-dire que Melsungen est jumelée aussi avec Todi est aussi jumelée avec Bautzen, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des échanges croisés. Donc déjà, ils se sentent quand même européens, puisque en plus, ils sont en relation avec une ville du Burkina Faso, et chaque ville, enfin, les uns et les autres, sont en relation avec cette ville. Donc il y a un sentiment européen qui se crée. Donc je crois aussi que l'histoire ne se répète pas, parce que ça n'existait pas, toutes ces relations croisées. Maintenant, tout le monde voyage. Est-ce que vraiment... peut-on imaginer que chacun souhaite qu'à Strasbourg, on s'arrête et puis on paie des droits de taxe avant de partir en Allemagne, puis on s'arrête à la frontière avec la Tchécoslovaquie, etc., etc. Donc là, il y a quand même quelque chose, une attache européenne sur la culture européenne, cette civilisation européenne qui est commune. C'est là-dessus qu'on peut se poser. Et d'autre part, si on regarde bien le travail de la Commission, mais la Commission, elle représente l'intérêt commun. Et la Commission, elle est lourde, etc. Mais on voit, au fur et à mesure qu'il y a des scandales de corruption ici et là, on voit que c'est en Europe que l'on a pris des mesures concernant le contrôle des finances, que c'est en Europe et au niveau européen d'abord que l'on a pris des mesures pour lutter contre l'obsolescence programmée. Et puis on peut regarder aussi ce que ça fait quand les nationalistes l'emportent. Ça fait le Brexit. Et pour l'instant, on voit une partie des Anglais qui pleurent en disant on aimerait bien qu'il y ait de nouvelles élections, parce que finalement, il y a aussi les idées fausses. Donc je crois, et là on peut poser l'importance que les populations, alors on parle du populisme, et bien que les populations soient vraiment populistes et qu'elles se prennent l'Europe en main et disent voilà, c'est ça qu'on veut. Et rappelons qu'il y a un droit d'organiser donc non seulement ces rencontres citoyennes, mais aussi lorsque quelque chose nous tient à cœur, on peut, au travers du système européen, interpeller la Commission pour dire saisissez-vous de ce problème. Donc quand même, il y a des choses positives là.
Tout à fait. Et c'est un peu le paradoxe actuel, c'est que avec cette montée, entre guillemets, des populismes, mais qui n'est pas autant que ce que l'on dit parfois, parce que l'exemple récent des élections en Bavière montre que ce qui était craint ne s'est pas produit.
Et puis les Verts, c'est très bien. Moi, je pense que l'Europe a l'avenir.
N'est pas à grimper au niveau des élections, mais pas comme que cela était envisagé et craint. Donc les mouvements écologistes ont monté, d'ailleurs, que ce soit en Bavière, les élections au Luxembourg, en Belgique également.
Donc les peuples ne sont pas si fous.
Et parallèlement, c'est là aussi le paradoxe, comme vous le disiez, avec le Brexit, c'est que d'après les sondages, jamais les Européens, tout pays confondu, n'ont été aussi européens que ces derniers temps. Tous les sondages le montrent. Il y a, par exemple en France, il y a 64% des Français qui ont été interrogés et qui estiment, et c'est un sondage publié très récemment, il y a quelques jours, 64% des Français estiment que l'Union européenne bénéficie au pays. Donc il y a, et au niveau européen, c'est une moyenne entre 60-68%, exception faite, il faut dire, de l'Allemagne, qui, elle, dépasse, au niveau de 81%. Mais c'est pour dire qu'on est très loin de ce que certains disent. Et c'est un peu le paradoxe, c'est que cette crainte, justement, qu'on en revienne à un repli sur soi, fait que l'opinion commence à bouger, se dire « mais non, on peut quand même pas revenir à ce qui était passé ». Et comme vous le soulignez tout à l'heure, au niveau des frontières, il y a une telle imbrication des droits, de l'ensemble de nos pays au niveau économique, au niveau à tous les niveaux, que on se rend bien compte précisément à travers le Brexit, et on voit quelle est la difficulté entre le problème de l'Irlande du Nord et la République d'Irlande au Sud, que c'est un casse-tête affreux, parce que on ne sait pas comment organiser une séparation à un moment donné de ce qui a été lié. Donc on en est là à l'heure actuelle, et si le Brexit, pour l'instant,
il y en a qui veulent divorcer, et d'autres non,
n'est pas parvenu à un accord entre la Grande-Bretagne et l'Europe, c'est bien notamment à cause du problème irlandais, un problème de frontières, tellement les imbrications sont réelles et très difficiles à surmonter.
Et alors, avant de faire une pause, je voulais dire aussi que ne nous laissons pas voler les élections européennes, parce que aux élections européennes, ce qui est en jeu, c'est l'avenir de l'Europe. Et ne nous laissons pas prendre par le fait de, si on est mécontent vis-à-vis du gouvernement, on va voter non à ce qu'il propose. C'est pas ça qu'il faut faire. L'enjeu, c'est vraiment l'Europe. Donc, ne nous laissons pas voler les élections européennes par des considérations de politique intérieure française. Alors ça, on peut aussi demander aux hommes politiques français de ne pas utiliser les élections européennes à leur profit. Alors ça, c'est leur demander beaucoup de choses. Mais ça veut dire que c'est aux citoyens, à nous, à l'ensemble des personnes, de se dire ne nous laissons pas voler les élections européennes, d'une part par nos gouvernements et d'autre part par nos élus qui veulent se refaire une santé lorsqu'ils sont mauvais sur le dos de l'Europe.
Alors, surtout que ce serait important. Tout à fait, vous avez tout à fait raison de souligner, d'autant plus que ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied, comme on le dit en langage franc.
Allez, une petite pause avant de reprendre. Lived at Bunbridge Town in the county down one morning last July. Down on Barron Green came a sweet calling, and she smiled as she passed me by. Oh, she looked so neat from her two white feet to the sheen of her nut brown hair. Such a coaxing elf, had to shake myself to make sure I was standing there. From Bantry Bay to the Derry Quay, and from Galway to Dublin Town, no maid I've seen like a sweet Colleen that I met in a county down. As on was sped, sure I shook my head, and I gazed with a feeling queer. And I says I to a passerby, who's a maid with the nut brown hair. Oh, he smiled at me when with pride says he, she's a gem of the Ireland crown. Young Rosie McCann from the banks of the Bann, she's a star of the county down. From Bantry Bay to the Derry Quay, and from Galway to Dublin town, no maid I've seen like a sweet collie that I met in a county down. She'd a soft brown eye and a look so sly, and a smile like the rose in June. And you hung on each other from a lily white throat, and she lilted an Irish tune. And the pattern dance you were held in trance, and she tripped through a reel or a jig. And with red eyes she'd roll cocks upon my soul, a spot from a hungry pig. Of a Bantry Bay to the Derry Quay, and from Galway to Dublin town, no maid I've seen like a sweet colleen that I met in a county down. Eh bien, nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel dans l'émission Bienvenue en Europe, et nous avons évoqué donc cette rencontre des jumelages. Nous avons évoqué que finalement l'avenir de l'Europe, eh bien, c'est aux citoyens de la construire, et aussi, eh bien, les citoyens doivent construire, les citoyens doivent s'engager, mais il faut aussi des institutions. Et à cet égard, eh bien, on mesure aussi que les institutions européennes et les institutions de chaque pays sont liées d'une certaine manière. Prenons l'exemple de l'Italie, parce qu'en ce moment, en Italie, il y a eu ce sursaut populiste. Mais il faut aussi remarquer que le sursaut a eu lieu notamment à cause de la question des migrations, et que nous avons laissé de façon tout à fait égoïste les Italiens prendre sur eux et sur eux seuls tous ces réfugiés en Méditerranée, parce que fallait-il laisser les corps flotter sur la Méditerranée et faire un cimetière, ou bien fallait-il que des Aquarius ou d'autres recueillent les personnes. Et là, on sent qu'il y a quelque chose de tout à fait intéressant, c'est que les peuples sont en avance sur leurs autorités. Parce que, en soi, chacun dit « des migrants, il y en a assez », mais devant la difficulté de tel ou tel, on s'émeut. Donc là aussi, il faut peut-être réfléchir à cette question.
Oui.
Alors quand même, donc ça, c'est pour cette raison qu'il y a eu ce reflux en Italie, mais il reste que, parlons de l'Italie et de ses institutions et de son fonctionnement aujourd'hui, puisqu'il y a eu ce gouvernement.
Comme vous l'avez souligné, c'est le manque de solidarité entre pays européens qui est largement responsable de la situation italienne. Cette affaire des migrants est vraiment symptomatique de l'état actuel de nos États, pas des peuples, mais des représentants politiques de ces États. Qui ont peur de leur peuple. Et on l'a bien vu même au dernier sommet, il y a eu sommet après sommet, le dernier en date il y a deux jours, les 17 et 18 octobre. La question des migrations et des accords dits de Dublin, etc., en ce qui concerne la réglementation selon laquelle c'est le premier pays d'accueil des migrants qui doit traiter l'ensemble de la question. Tout ceci qui est dénoncé par ailleurs, à chaque fois est bloqué. Donc nos gouvernements n'arrivent pas à se mettre d'accord parce qu'il y a un manque de solidarité entre eux. C'est du chacun pour soi. Et si ça ne marche pas au niveau européen en ce qui concerne ces mouvements de migration, avec en particulier une harmonisation du droit d'asile qui est absolument nécessaire, on n'arrive à rien. Et donc, ça ne peut...
Alors ça, c'est sur la table européenne.
C'est sur la table européenne, mais ça explique tout à fait ce qui se passe en Italie actuellement. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il y a les courants migratoires qui se déplacent, et actuellement, c'est l'Espagne qui est en première ligne. Et on ne sait pas ce qui peut se réaliser dans un certain nombre de mois si l'Espagne prendrait la succession
de
l'Italie par rapport... Exactement. Donc, ça, c'est le problème de fond. Après, donc, le gouvernement actuel italien, comme l'on sait, est une alliance entre... une coalition entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Ils ont présenté ces derniers jours un budget devant... à Bruxelles, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons des règles ensemble. Nous avons la même monnaie ensemble. On la partage, donc il y a des règles à respecter pour que cette monnaie se tienne et non pas que ce soit la débandade et une chute des marchés, des cours, etc., avec les catastrophes que l'on peut imaginer. Alors, le budget italien qui a été présenté au niveau européen est un budget qui ne répond pas aux exigences de ce qui était convenu
ensemble,
de l'équilibre. Donc, ils se sont mis en déficit pour essayer de dire, eh bien, on n'a pas l'argent, mais on va en dépenser, puisqu'on a l'euro. Donc, si on n'a qu'un euro en poche, on va en dépenser trois, par exemple. C'est exactement comme cela que ce gouvernement agit. Alors, effectivement, c'est facile de dire, on va relancer l'économie, on va donner de l'argent à tout le monde pour flatter tel ou tel corps électoral. La gauche, extrême gauche, qui dit, on veut un revenu universel garanti de temps par mois, quoi qu'on fasse, même si on ne travaille pas. L'extrême droite qui dit, on va défiscaliser telle ou telle chose parce que les entreprises ont besoin de ceci ou de cela. Mais si on n'a pas l'argent, il faut être raisonnable. Or, nous avons la même monnaie. Donc, le gouvernement italien a osé, malgré les règles auxquelles l'Italie avait acceptées en signant des traités, ce gouvernement italien a présenté un budget qui est en dehors des clous. Et il y a eu très exactement hier, le 18... puis au jour où
oui, la visite de Pierre Moscovici.
Pierre Moscovici. Donc, à la fin du sommet européen, il y a eu la réaction de la Commission européenne et le gouvernement italien a jusqu'à lundi 22 octobre, donc dans quelques jours, pour réagir et donner sa réponse. Est-ce qu'il va modifier son budget ou pas. Et ce serait une première de la part d'un grand pays, indépendamment de ce qui s'est passé avec la Grèce il y a quelques années. Donc c'est quelque chose d'important. Alors personne n'est contre l'Italie. Tout le monde essaie d'aider, mais il y a quand même un minimum de respect des règles communes. Autrement, ceci peut nous amener à mal. Disons également autre chose, c'est que M. Salvini, qui est en tête du mouvement d'extrême droite italien, ne cache pas lui-même que, poussé par ses partisans, qu'il pourrait prétendre aux prochaines élections européennes d'être le candidat pour remplacer M. Juncker et dire, ben, comme ça, toutes les règles européennes, on les met par terre et puis on va avoir les nôtres. Donc, il y a, indépendamment de cette affaire du budget italien, on en revient aux élections européennes pour montrer quelle est leur importance. Est-ce que l'on veut mettre par terre les bénéfices, malgré tout, qui existent de cette Europe ou pas? Ou est-ce que l'on veut aller vraiment dans ce qui est indiqué par ces prises de position? Imaginons un Parlement européen qui serait dans les mains de ceux qui sont les nationalistes. Ça n'a aucun sens. C'est quelque chose qui nous amène à réfléchir vraiment sur exactement l'Europe que l'on veut. Alors, il y a une grande part de responsabilité de chacun de nos États, on l'a dit, manque de solidarité, c'est clair. Mais il faut en revenir, disons, à des bases saines, il faut respecter chacun. Revenons-en aux fondamentaux. La devise de l'Europe, c'est s'unir dans la diversité. Cette union dans la diversité, chacun, chaque peuple est là, ne perd en rien ses particularités. Mais il y a au niveau européen, et en particulier quand on partage la même monnaie, eh bien un certain nombre de règles qu'il faut suivre. Autrement, on entraîne derrière soi, dans le gouffre que l'on est en train de creuser, tous les autres. Donc il faut absolument que chacun soit convaincu de cette situation pour que, précisément, notre avenir soit le plus ouvert et conforté que possible.
Oui, alors je reviens sur en avant l'Europe et puis ne nous laissons pas voler l'Europe. Mais il me semble aussi que les Italiens ne sont pas si fous. Est-ce que vous pensez vraiment qu'en sortant de l'Europe, ils veulent sortir de l'euro aussi et puis retourner à la lire et puis se trouver dans la situation du Brexit et de la livre sterling, puisque finalement, avant de sortir de l'Europe, l'Angleterre avait une monnaie qui était sa monnaie et dont il pensait que effectivement il serait à l'abri et qu'il n'y aurait pas de remous économique. Or, la livre sterling s'est dépréciée très vite et les Anglais se sont retrouvés avec beaucoup moins d'argent dans leur porte-monnaie. Et lorsque Madame Le Pen nous dit on va revenir à avant, finalement, elle a changé de discours parce qu'elle se rend bien compte qu'il y a des impossibilités et que les gens n'accepteraient pas de revenir à une diminution de leurs revenus, puisque finalement, ce qui compte pour chacun, soyons précis et soyons clairs, c'est aussi ce qu'il gagne, l'argent qu'il peut dépenser, l'argent qu'il peut utiliser. Et si on dit demain aux Italiens, eh bien, d'accord, vous sortez de l'euro et puis ça ampute de 30% votre pouvoir d'achat, je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de sortir de l'Europe. Et peut-être que là, il y a aussi un levier, l'intérêt bien compris. Ce n'est pas une question de morale ou une question de politique, c'est une question d'intérêt bien compris. Construisons l'Europe, mais l'Europe que nous voulons. C'est vrai qu'elle est un peu trop rapacière, un peu trop technocratique, un peu trop bureaucratique. Et c'est très, très important de dire nous voulons une Europe qui soit aussi à la mesure des citoyens. Alors pour finir, elle est quand même à la mesure des citoyens, puisque je regardais dans son actualité un pont, par exemple, à Rotterdam. On va construire un ouvrage très important, puisqu'il faut franchir la Meuse, le Rhin, et puis qu'on est dans la zone de l'estuaire. Donc c'est un ouvrage très important. Et là, l'Europe va mettre la main à la poche pour construire ces ponts. Mais en même temps, j'ai observé les ponts à Dreux ou bien des ouvrages d'art ici et là. Souvent, on voit financés par l'Europe. Et cela, on l'oublie. Donc voilà aussi quelque chose pour dire, eh bien, bienvenue en Europe et restons en Europe. Et sur ce, chers auditeurs, je vous dis bonne semaine à tous. Au revoir. Una nebbia che sembra di essere dentro a un bicchiere di acqua e anice è già
L'ha detto anche oggi la radio ed è vero, è l'una passata e nell'auto mi sembra di essere solo perché tu non parli con me. Ti sei addormentata non appena tu sei salita dopo il ballo domenica sera, è sempre così e mi tocca riportarti fino a casa.